à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Pour vous, c'est la première édition de Mon Prof, ce chercheur. Pour nous, c'est la quatrième édition cette année. Alors, le principe, c'est que vous, étudiants, rencontriez des enseignants chercheurs, certains que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, on reçoit Pierre Sabatier, qui est ici à droite, et Nicolas Bonfanti. Donc, certains d'entre vous aviez cours avec lui juste avant. Donc vous le connaissez, mais vous ne le connaissez peut-être pas sous toutes ses formes. En tout cas, ses formes de chercheur. Donc on va commencer peut-être avec toi, Nicolas. Tu es doctorant ?
Oui, c'est ça. Donc bonjour à tous. Nicolas Bonfanti, je suis doctorant ici à l'USMB. Je suis sur deux laboratoires, le laboratoire Editem et le laboratoire Cartel. Donc c'est à la fois un laboratoire plutôt typé géosciences et un laboratoire typé plutôt écologie, biologie. Donc pourquoi ces deux laboratoires ? Donc je suis étudiant en sciences des sols. Donc les sols, c'est à l'interface entre le monde minéral et le monde du vivant. Donc, c'est pour ça que je suis sur ces deux laboratoires. Et donc ma thèse porte sur les dynamiques du carbone et de la matière organique dans les sols face au réchauffement climatique.
Merci. Pierre, est-ce que tu as toujours voulu être chercheur ? Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ?
Bonjour à tous, on se connaît pour la plupart. Moi je suis Pierre Sabatier, je suis enseignant-chercheur à l'université au laboratoire Editem. Et oui, j'ai effectivement toujours voulu faire ça, depuis que j'ai quelques années, on va dire même. Et alors au départ c'était plutôt en paléontologie, souvent quand on arrive en géologie on arrive par la paléontologie ou la volcano, et puis ça s'est vite orienté plutôt sur des problématiques plus modernes, modernes en termes d'enregistrement, donc sur les dernières centaines d'années, milliers d'années, l'Holocène, sur les questions plutôt de changement climatique et d'impact des activités humaines sur l'environnement.
Et comment t'as fait pour devenir enseignant-chercheur à Editem et dans cette université ?
Alors j'ai fait un cursus comme vous, donc c'est-à-dire une licence et puis un master. Mon master était plutôt orienté recherche, donc j'ai fait des stages en recherche, et puis ensuite j'ai fait un doctorat. Donc ça c'était à l'université de Montpellier. Et puis ensuite après ce doctorat, j'ai fait un poste d'ATER. ATER ça veut dire attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Donc j'avais un contrat d'un an où je faisais à la fois de l'enseignement et de la recherche, c'était à Paris. Et puis ensuite, j'ai passé. Il y a un poste de prof, de maître de conf qui s'est ouvert à l'Université de Savoie dans le laboratoire Editem, sur lequel j'ai candidaté. On était une vingtaine et c'est moi qui étais pris.
N'hésitez pas à intervenir et à poser vos questions. Je vois vos têtes qui réagissaient, mais réagissez directement si vous avez envie. Nicolas, pardon. Et toi, tu es aussi multicasquette, tu as d'autres compétences, en tout cas, et d'autres diplômes. Tu es pisteur, tu es aussi accompagnateur en montagne. Est-ce que tu as toujours voulu faire chercheur ou c'est en plus ?
Alors, oui, j'ai toujours voulu faire chercheur. Le parcours de Pierre, typiquement, c'est un parcours qui me passionne, qui me fait rêver. J'ai également d'autres activités que je pratique en montagne. J'ai une forte passion pour les sports de montagne. Donc, j'ai effectué un parcours en lycée montagne, où pendant ce parcours, j'ai commencé à passer des formations, à me lancer dans des formations d'accompagnateur en montagne et de pisteur secouriste. Et donc, par la suite, j'ai continué ces diplômes en parallèle de mes études. Et après, j'ai repris le parcours classique, licence, master, comme Pierre, et doctorat. Donc, mon master, j'ai fait le master qui est ici, le master qui s'appelle Sciences de l'environnement appliquées à la montagne. Et en deuxième parcours, en M2, j'ai fait le parcours Écomont, qui est un parcours plutôt typé recherche. Et c'est par la suite, donc pendant ce parcours de M2, on a un stage. J'ai effectué mon stage au laboratoire Editem avec mes directeurs de thèse, qui par la suite m'ont amené à faire cette thèse.
C'est bien, justement, tu parles des stages. Je ne sais pas si vous êtes en recherche de stage, mais l'université peut vous proposer des stages si vous avez envie de vous perfectionner dans un domaine, si vous avez envie de voir comment fonctionne la recherche à l'université. C'est une opportunité. Il y en a qui sont déjà en stage. Enfin, j'en connais au moins un qui est en stage chez Editem. Est-ce que vous avez des questions sur le parcours, sur comment on devient chercheur ? Ouais. Est-ce qu'il y en a qui voudraient devenir enseignant-chercheur dans la salle ? Ne soyez pas timide, oui. Et donc, vous êtes en quelle année ? Et vous avez pensé à faire un stage ? À demander un stage ? D'accord. Et vous ? Les autres qui ont levé la main? D'accord. Mais profitez-en si vous avez des questions aussi sur comment on finance sa thèse. Ça peut être une question. Comment vous avez financé votre thèse? Comment tu la finances actuellement?
Alors, il y a différents financements pour pouvoir se faire financer une thèse. Donc, trois grands types de financement. Tu compléteras, Pierre, si j'oublie certains types. Mais soit donc c'est avec en partenariat avec une entreprise. Dans ce cas-là, c'est les bourses qu'on appelle CIFRE. Donc c'est plutôt de la recherche appliquée où vous êtes à la fois rattaché à un laboratoire de recherche et à la fois dans une entreprise. Soit c'est une thèse des écoles doctorales, donc des bourses d'écoles doctorales. Donc tous les ans, sur chaque université, il y a des écoles doctorales qui proposent des bourses de thèse, qui les financent. Et donc il y a un concours pour ça, pour pouvoir obtenir cette bourse de thèse. Donc il faut d'abord avoir un projet, proposer son projet de thèse au concours d'école doctorale. Et ensuite, si on obtient le concours, on a un financement pour les 3 années de la thèse. Et enfin, le troisième type de financement, c'est mon cas, c'est quand la thèse est rattachée à un projet de recherche. Donc lorsqu'un projet de recherche est déposé, il y a des crédits qui sont alloués au financement d'une thèse. Et là, par exemple, c'est mon cas. Moi, par exemple, ma thèse est financée dans le cadre d'un projet ANR, de l'Agence nationale de la recherche. Et donc ce projet ANR, c'est le projet qui s'appelle Transalp. Donc c'est le gros de la manip de ce projet, c'est l'alpage volant. Donc on a transplanté des sols à plus basse altitude pour simuler un réchauffement climatique. Et donc dans ce projet de recherche, il y a différents groupes thématiques, ce qu'on appelle des work packages, qui vont travailler sur différentes facettes de ce projet-là. Et moi, par exemple, je travaille sur le work package qui s'intéresse à l'évolution des sols dans ces placettes de sols qui ont été réchauffées. Et mes crédits de recherche sont attribués à ce projet-là.
Oui, on sait tout à fait ça pour les financements de thèse. Juste une petite information supplémentaire. Pour devenir chercheur, il n'y a pas que enseignant-chercheur. D'accord, donc c'est possible d'avoir des postes d'enseignement et de recherche à l'université, mais il y a aussi d'autres, ce qu'on appelle des EPST, des établissements publics de sciences et technologies, comme par exemple le CNRS, l'IRD, le CEMAGREF ou d'autres types d'instituts qui ont également des postes de chercheurs. Alors il y en a, par exemple, si je prends l'exemple de l'IRD, qui est l'Institut de Recherche pour le Développement, c'est plutôt des profils de recherche pour les pays du Sud, où là il y a des expats de 4-5 ans, tous les 10 ans, dans les pays du Sud, pour développer certains partenariats et certaines recherches dans certains pays du Sud. Le CNRS, c'est un grand institut qui regroupe quasiment toutes les disciplines sauf la médecine. Et donc là, c'est des concours où vous candidatez sur un poste que de chercheur. Vous n'êtes pas obligé de faire de l'enseignement. Voilà. Et donc, il y a différents types d'EPST qui permettent d'avoir des postes de chercheur.
Et justement, je rebondis, tu viens de préciser qu'il y avait des postes de chercheur. Et toi, tu es enseignant chercheur, donc tes journées, elles ressemblent à quoi ?
Elles sont assez denses, il faut reconnaître. Un enseignant-chercheur, il a un nombre d'heures statutaires à faire par an, à peu près 200 heures devant vous. Donc c'est que de l'heure en présentiel. Ensuite, il y a tout ce qui est autour de l'enseignement, donc les emplois du temps, préparer les cours, corriger les copies, etc. Et puis gérer les filières également. Et puis donc ça, globalement, ça compte pour à peu près 50% du temps. En tout cas, c'est comme ça que c'est évalué. Et puis l'autre 50%, c'est donc de la recherche. Et donc là, que ce soit chercheur, enseignant-chercheur, on n'a pas de responsable qui nous dit quoi faire. C'est à nous, en fonction de nos disciplines, d'aller chercher des financements pour obtenir des projets de recherche, pour travailler sur une thématique choisie. Donc sur l'aspect recherche, une partie du temps, c'est aussi dédié à la recherche de financement. Donc à répondre à les appels d'offres pour avoir du financement, pour pouvoir travailler et pour pouvoir aussi avoir des étudiants en thèse ou en post-doctorat pour travailler avec nous. Voilà. Donc c'est à peu près moitié-moitié.
Très bien. Je vous avais demandé de me donner 2 photos de vous. Vous avez des photos là, on les voit sur le terrain. Donc justement, Nicolas, tu es venu avec quelque chose à nous présenter ?
Alors voilà ce que j'ai amené à vous présenter, et c'est un peu en lien avec la photo. Donc pour la petite histoire, j'ai fait mon stage de M2 l'année dernière, et donc les stages de M2 en écologie en milieu de montagne, c'est pas forcément facile, parce que les stages qui commencent au mois de janvier, il y a la neige de partout en montagne, donc on peut pas faire les analyses directement sur le terrain. encore que c'est encore possible. Là, par exemple, on fait des analyses de respiration du sol sous la neige. Mais pour réaliser des études où on se focalise uniquement sur certains paramètres, par exemple sur l'effet de la fonte de la neige sur les sols, on va effectuer des analyses qu'on appelle plutôt in vitro, donc pas sur le terrain. Et c'est particulièrement pratique pour les stages d'écologie en milieu de montagne. C'est ce que j'ai effectué pendant mon stage. Donc mon stage de M2 a consisté à confectionner ce système-là et à l'utiliser par la suite. Et donc c'est un système qui permet d'incuber des sols à différentes conditions thermiques et hydriques. Donc tout simplement, on introduit du sol à l'intérieur, qu'on a échantillonné au préalable sur le terrain. Et ensuite, ce sol, on va le mettre à différentes températures d'incubation, et on va mesurer différentes caractéristiques de sol, comment le sol évolue, comment le sol réagit aux événements de température. Par exemple, si on simule des températures extrêmes, ou si on simule des événements de fonte, ou si on simule des événements de gel très fort. Il y a notamment des stagiaires qui travaillent sur ce sujet-là. Et donc, l'avantage de ce type d'approche, in vitro, c'est qu'on va vraiment se focaliser sur un phénomène en particulier. Ce qui n'est pas le cas sur le terrain. Parce que sur le terrain, si vous voulez prendre en compte l'effet de la fonte, en réalité, il y a tous les autres paramètres qui agissent aussi sur le terrain. Si la température va varier au cours du temps, alors que là, on peut être maître de toutes les variables qui vont agir sur ce sol-là. Donc voilà, c'est le petit dispositif d'incubation que j'ai créé pendant mon stage de M2 qui m'a donné des résultats sympas sur l'effet du réchauffement climatique sur les sols. Donc tout simplement, j'avais incubé le sol à sa température moyenne actuelle et je l'ai incubé aussi à une température qui simule un réchauffement de 4 degrés. Et en fait, on s'est rendu compte sur ces deux modalités d'incubation que le sol respirait deux fois plus pour une simple augmentation de température de 4 degrés. Voilà. Pour mon petit dispositif et ma petite anecdote là-dessus.
Donc ça veut dire que tu pars sur le terrain et ensuite tu as une grande partie de ton temps que tu passes au laboratoire pour pouvoir analyser les résultats.
Voilà, ouais. Ouais, donc c'est vrai que le terrain, ça peut faire beaucoup rêver. Ça fait rêver, c'est passionnant. Mais au final, c'est une petite, en termes de durée, c'est une petite période de notre travail. Hein. Je dirais que c'est 5-10%.
Et bien pour rêver... je crois que tu pars bientôt sur le terrain. Tu peux nous expliquer où tu vas et ce que tu vas y faire ?
Oui, alors ça fait un petit moment que je travaille aux Antilles, notamment sur les risques de submersion marine, que ce soit les cyclones tropicaux, les tsunamis. Et je pars dans 10 jours pour 2 semaines sur le terrain aux Antilles. Et on doit aller faire des carottes de sédiments, en fait, pour retrouver dans ces carottes de sédiments des dépôts liés aux cyclones et aux tsunamis passés. Sur des échelles d'à peu près 5000 ans, pour essayer d'estimer la récurrence et la fréquence de ces événements au cours du temps, savoir quand a eu lieu le dernier et quels sont les risques associés à ça. Et donc cette mission, donc on part de Martinique à bord d'un catamaran et on va faire 10 jours de mission où on va carotter 5 lagons sur 5 îles différentes dans l'archipel de Saint-Vincent et des Grenadines. Donc dans le sud de l'arc. Et donc, on dort et on mange sur le bateau. Et puis, tous les jours, on débarque avec l'annexe du bateau. Et puis, on prend cette annexe pour la mettre dans les lagons. Et puis, on va faire des carottes de sédiments dans ces lagons. Et puis ça, voilà, sur 7 ou 8 lagons dans les Antilles du Sud. par exemple, il y a une stagiaire de M2 qui vient avec nous.
Et justement, tu as besoin de stagiaires pour d'autres missions ou est-ce que tu as d'autres projets en cours ?
Alors, généralement, on a beaucoup de projets en parallèle. Moi, j'en ai vraiment beaucoup en ce moment. Ça dépend un peu des financements et de ce qui passe. On se trouve que l'année dernière, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Donc, sur les gros projets actuellement, j'en ai un en Turquie sur les risques sismiques, avec l'archivage de dépôts liés à des séismes dans des lacs. J'en ai un autre en Amérique du Sud sur les retombées de radionucléides liées aux essais nucléaires à l'échelle de l'Amérique du Sud. Et puis j'en ai un autre sur l'altération des îles volcaniques. Là, c'est la Réunion et la Guadeloupe principalement. Et sur le piégeage du carbone lié à l'altération de ces îles volcaniques. Et à savoir essayer de quantifier quelle est la quantité de carbone de l'atmosphère qui peut être piégée via l'altération de ces îles. Voilà. Et puis un autre projet aussi, et là je ne vais pas sur le terrain parce que c'est voilà, tout se coupit mal, mais c'est, sur le, c'est au Tibet, et c'est sur le risque sismique de deux grandes failles au Tibet, sur les infrastructures humaines. Et donc tout ça aussi à travers des enregistrements sédimentaires dans les lacs pour reconstituer la fréquence de ces événements. Voilà, un petit peu. Et est-ce que j'ai besoin de stagiaires? J'en ai beaucoup en ce moment, un petit peu trop. Mais oui, j'ai toujours besoin de stagiaires. Oui, bah, là, tout ce que je vous ai dit, c'est des appels à projets de l'Agence nationale de la recherche. Donc, c'est des appels qui sont blancs. En fait, il y a des grandes thématiques. Et puis là-dedans, en fonction des thématiques que l'on veut développer, on répond à ces appels d'offres. Il y a un comité qui évalue le projet. C'est des projets qui tournent autour de, je sais pas, entre 500 000 et 800 000 euros, qui sont généralement sur 4 ans. Et donc ça paye à la fois le... Alors nous on n'a pas besoin de payer notre salaire, mais ça paye le salaire des doctorants ou des post-doctorants, voire même des masters. Et puis aussi ça paye les frais de terrain et tous les frais analytiques, puisque ensuite quand on rapporte le matériel au laboratoire, donc il y a toute une série d'analyses qui ont un coût. Et donc voilà. Donc par exemple, pour donner un ordre d'idée, une date carbone 14 pour obtenir un âge, c'est 300 euros. Voilà. Donc évidemment il faut des ressources financières pour réaliser ces manips.
Alors, tu nous as parlé de tous ces projets. Je pense que tu n'es pas forcément tout seul. Vous travaillez en équipe. Toi, Nicolas, tu es un directeur de thèse aussi. Est-ce que tu es dans une équipe? Ta thèse, elle s'insère dans un projet plus vaste? Est-ce que tu peux expliquer?
Ma thèse s'insère dans le projet Transalp, donc qui est porté par plusieurs laboratoires, parce que donc il y a différents work packages, différentes facettes qui vont utiliser ces sols qui ont été réchauffés pour analyser le réchauffement climatique. Et notamment, il y a le laboratoire d'écologie alpine de Grenoble qui va s'intéresser, lui, à tout ce qui est évolution des traits fonctionnels des végétaux, des traits racinaires, des traits aériens, face au réchauffement climatique, et aussi comment la communauté végétale va évoluer face au réchauffement climatique, donc avec des relevés botaniques. Mais donc, pour vous montrer que c'est un projet qui est global, qui ne s'intéresse pas juste, moi, à ma partie sol, donc la partie sol qui est gérée par mes directeurs de thèse. Donc, j'ai deux directeurs de thèse qui sont donc un au laboratoire Editem, un au laboratoire Cartel, qui sont tous les deux professeurs. Donc, vous avez sûrement déjà dû avoir en cours. C'est Jérôme Poulnard et Jean-Christophe Clément. Et donc, moi, je m'intéresse vraiment à cette partie sol. Et voilà, le projet, c'est vraiment un projet dans sa globalité, l'évolution de... à la fois des êtres vivants, mais aussi des propriétés des sols. Et donc, tous les ans, on se réunit assez régulièrement pour faire l'état d'avancement sur nos recherches par bloc de compétences. Et aussi, on se partage les données qu'on obtient, puisque toutes ces données sont interreliées entre elles. Donc, c'est un projet qui est très global et très globalisant entre les laboratoires, qui rassemble plusieurs laboratoires.
Et toi, de ton côté ?
Oui, effectivement, tous ces projets dont on vous parle, c'est des projets collaboratifs avec plein de partenaires institutionnels. Aujourd'hui, typiquement, c'était la deadline pour les projets ANR. Et donc là, j'en ai emporté un donc, que je viens de déposer. C'est, donc, je vais vous donner un exemple, c'est sur les Antilles, toujours. Cette fois-ci, c'est sur les aléas naturels aux Antilles. Donc ça prend en compte les éruptions volcaniques, les cyclones tropicaux, les tsunamis, également aussi les risques de sécheresse. Donc pour ça, en fait, on intervient à plusieurs laboratoires. On est six laboratoires partenaires. Donc c'est le nôtre qui porte ce projet. Mais c'est un projet pluridisciplinaire qui fait intervenir des collègues en archéologie, d'un laboratoire en Martinique, des collègues en histoire qui ont notamment dépouillé les archives historiques des Antilles pour essayer de retrouver les phénomènes climatiques extrêmes dans les Antilles et puis les comparer avec ce que l'on retrouve dans les archives sédimentaires. Les collègues archéologues ils travaillent notamment sur l'interaction homme-milieu et comment les risques naturels ont pu impacter les sociétés passées, notamment les sociétés précolombiennes, sur leur développement. Il y a des collègues aussi anthropologues qui vont plutôt s'intéresser à comment les sociétés actuelles se saisissent de ces questions de risques naturels et est-ce que les sociétés actuelles sont autant résilientes que les sociétés passées face à ces risques naturels. Puis il y a des laboratoires plutôt de géologie, comme le nôtre, ou des laboratoires qui travaillent plutôt sur les risques de submersion, des laboratoires qui travaillent plutôt sur les risques d'éruptions volcaniques, avec notamment l'observatoire en Martinique et en Guadeloupe sur les volcans. Donc voilà, tout ça, ça regroupe tout un panel de laboratoires avec différentes compétences et tout ça pour répondre à un grand projet de recherche qui est globalement quel est l'impact des risques naturels aux Antilles sur les sociétés depuis qu'il y a des sociétés aux Antilles, donc à peu près depuis 5000 ans, et comment ces sociétés s'adaptent à ces risques naturels et est-ce que la résilience de ces sociétés a évolué au cours du temps. Donc oui, c'est des projets collaboratifs et multidisciplinaires.
Avez-vous des questions ? Oui, donc questions sur les réponses. Voilà, exactement, j'avais oublié. Ouais. Donc on a une question sur comment on répond au projet, comment on rend compte en fait des résultats. Ouais, c'est ça à peu près la question.
Alors en fait, donc il y a des chercheurs de différentes disciplines qui donc de toute façon tous publient leurs résultats dans des journaux à comité de lecture. Donc ça veut dire que une fois qu'on a fait l'analyse soit d'une carotte sédimentaire, soit d'analyse textuelle, soit de site archéologique, donc on écrit un article scientifique qui est la plupart du temps en anglais, qu'on soumet ensuite dans une revue scientifique, et là on est expertisé par ses pairs, on dit. Donc ça veut dire au moins deux ou trois personnes qui sont spécialistes du domaine et qui vont critiquer le travail, qui vont émettre tout un tas de réflexions ou de commentaires auxquels il va falloir ensuite répondre. Et si on répond correctement à tout ça, ensuite l'article est donc on le corrige et l'article est publié. Donc ça, c'est pour les publications qui sont généralement disciplinaires. Et puis ensuite, à la suite de toutes ces publications et puis de tous ces jeux de données, on essaie de croiser les choses pour ensuite soit faire un rapport pour ce projet, bien sûr. Mais ensuite, l'objectif, c'est pas tant le rapport, c'est surtout de publier ces résultats pour qu'ils soient accessibles à tous. Et donc ensuite, on fait des publications. Donc là, dans le cadre de ce projet, ce sera plutôt des publications pluridisciplinaires dans des revues qui acceptent ce genre d'études pluridisciplinaires pour mettre en avant les résultats de ce travail, de ces travaux. Oui, bien sûr, il y a aussi des conférences, soit nationales, soit internationales, où on présente ces résultats. Oui, bien sûr. Alors la question, c'est comment ça se marche pour les publications. Donc en fait, il y a toute une série de journaux qui sont spécialisés dans différentes thématiques. Dans ces journaux, qui sont rajoutés associés à des boîtes d'édition. Et puis, pour chacun de ces journaux, il y a un comité éditorial qui est formé par des scientifiques du domaine de prédilection de cette revue. Et c'est eux qui acceptent l'article ou pas. Qui acceptent donc l'article pour la première soumission, pour l'envoyer à des experts qui vont rapporter ce travail-là. Et ensuite, donc on reçoit les commentaires, on y répond. Et ensuite, le comité éditorial décide si on a répondu correctement ou pas à ça. Si on a répondu correctement, l'article est accepté et publié. Si c'est pas le cas, il peut y avoir plusieurs allers-retours ou même le papier peut être rejeté. Voilà comment ça fonctionne.
Je vais faire un petit complément. À l'université, on fait de la culture scientifique et c'est mon poste, c'est l'objet de mon poste. Et l'objectif, c'est aussi de diffuser les résultats scientifiques en dehors de la communauté scientifique. Donc la première chose à l'université, c'est de les diffuser et de les partager auprès des étudiants, mais également auprès du grand public. Donc pour ça, on a un certain nombre d'événements qu'on organise avec des partenaires. On a Science Action aujourd'hui qui va faire un podcast de cette rencontre. Et on a aussi plein d'autres actions. Donc on va peut-être prendre encore des questions s'il y en a, et après je vous présenterai justement les activités auxquelles vous vous êtes vraiment invité à participer.
Oui, c'est ça. Donc, c'est.
Tu peux reprendre la question, s'il te plaît.
Oui, alors c'est la question, c'est comment ça se passe quand on devient doctorant, si on est payé ou si on est salarié ou si on est encore étudiant. Donc le statut de doctorant, c'est un statut d'étudiant. Donc on est encore étudiant lorsqu'on est en thèse de doctorat. On prépare un diplôme, on prépare le diplôme de docteur qui, pour se présenter, il faut qu'on ait déjà un bac plus 5, donc un master ou un diplôme d'ingénieur. Et donc au cours de ces trois années de formation, en fait c'est de la formation qui est très appliquée, on a un sujet de recherche et on travaille sur ce sujet de recherche, c'est-à-dire qu'on établit nos protocoles pour répondre à cette problématique de recherche, on teste nos hypothèses et on valide ou invalide nos hypothèses pour lancer de nouvelles perspectives de recherche. Et donc c'est vraiment un travail typique d'un chercheur. Et donc, de ce point de vue-là, on a un statut de salarié, un statut de chercheur. On est financé par un projet de recherche où on perçoit un salaire à la fin du mois. On est salarié, quoi. La plupart des thèses sont financées. Je crois qu'il y a encore certaines thèses, mais c'est plutôt en sciences humaines, où les doctorants ne sont pas financés, mais ça a tendance à devenir relativement rare.
Et juste pour rajouter là-dessus, donc la thèse c'est certes une finalité, mais c'est pas la finalité du parcours scientifique, puisque à la suite d'une thèse, c'est un contrat de 3 ans, donc vous êtes payé, je sais plus combien, 1 700 euros, un truc comme ça. Voilà. Mais ensuite, une fois que vous avez fini votre thèse, vous n'avez pas de poste, hein, d'accord. Il faut ensuite, donc généralement, la plupart du temps, on passe par des cases de post-doctorat. Ça veut dire des contrats de recherche à la suite du doctorat qui peuvent durer quelques années. Ça peut être aussi l'occasion d'aller voir comment ça se passe à l'étranger, dans d'autres laboratoires, puisqu'il y a des propositions de post-doctorat. Et à la suite de ces quelques années de post-doctorat, on candidate ensuite sur des postes fixes. Donc soit en France, soit également à l'étranger. Il y a beaucoup d'anciens doctorants qui sont plutôt en poste à l'étranger. Voilà. Et puis, une chose, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur la vulgarisation scientifique, en fait, de nos activités. Ça fait aussi partie de nos prérogatives. On essaie de rendre compte de ce que l'on fait dans la recherche auprès du grand public. Et, par exemple, voilà, la photo que j'ai mis là, c'est un carottage sur le lac Diznik en Turquie. Et en fait, dans le cadre de ce projet, qui est aussi un projet NR, il y a un documentaire, un long métrage qui est tourné, qui va être diffusé sur France 5 en mai, je crois, qui va durer à peu près 1h30 en début de soirée. Et donc, en fait, il y a une équipe de tournage qui nous a suivis pendant quasiment 2 ans sur ce projet-là. Alors, pourquoi est-ce que spécialement ce projet ? C'est parce que, et en fait, dans ce lac, il a été trouvé une basilique sous l'eau, en fait, qui a été détruite, qui a été découverte il y a quelques années. Et en fait, on savait que le premier concile de la chrétienté qui a établi toutes les lois, toutes les règles de la chrétienté, s'est tenu à Iznik, donc dans cette ville. Mais on savait que c'était dans une basilique, mais on ne connaissait pas la basilique. Et donc, en fait, c'est cette basilique qu'on a trouvée sous l'eau, que les collègues archéologues ont trouvé sous l'eau. Et donc, l'objectif, c'était de comprendre comment est-ce qu'elle a été détruite et quand. Cette basilique, elle est représentée, par exemple, dans la chapelle Sixtine. Et donc, voilà, il y a toute une narration autour de ce projet scientifique qui a donné l'œuvre à un documentaire.
Eh ben, merci. On faudra nous dire quand ça passe et on publiera sur les réseaux sociaux. Et vous pourrez regarder. Donc, je vais vous présenter quelques événements de culture scientifique qui vont avoir lieu très bientôt ce soir sur la chaîne YouTube de l'Université de Grenoble. Vous avez la finale, ma thèse en 180 secondes. On a 2 représentants de l'université qui vont concourir, donc il faut les soutenir. On espère qu'ils iront loin. Tout au long de l'année, on a les amphis pour tous. Ce sont des enseignants-chercheurs de l'université qui viennent présenter leurs projets, enfin leurs recherches, de façon vulgarisée à un public divers et varié. Donc chez nous, c'est à l'amphi Marcos à la présidence, et c'est en général le mardi. Donc je vous ai mis le programme, et il y a des programmes qui circulent. Donc vous, n'hésitez pas à venir, vous êtes les bienvenus. Science Action organise des cafés scientifiques, des ciné-sciences. Par exemple, le prochain ciné-sciences, c'est le 27 avril, et le titre, c'est « Où sont passées les lucioles ?» C'est sur la pollution lumineuse. C'est un exemple. On a un autre partenaire qui est la Galerie Eureka. Donc là, en ce moment, il y a une exposition que vous connaissez sans doute sur les glaciers, et c'est le laboratoire Editem qui l'a montée. Donc ça, c'est un bel événement de vulgarisation et de médiation scientifique. Donc il y a aussi l'exposition Super Ego qui va démarrer le 8 avril, et des conférences et des projections aussi en semaine, le jeudi et le samedi. Je vous enverrai la présentation. Voilà, donc je peux aussi vous préciser qu'il y aura la Nuit européenne des chercheurs le 29 septembre prochain, et que l'université organise dans 5 lieux sur 5 thématiques différentes. Et vous êtes vraiment invités à participer et à prendre part, à venir rencontrer aussi vos enseignants et les découvrir différemment, un petit peu comme aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas de questions, et si vous avez des questions, allez-y. Les amphis pour tous ? C'est à la présidence à Marcos en centre-ville. Oui, c'est ça, c'est le bâtiment bleu. Voilà, et c'est à 18h un mardi par mois. Et le prochain, c'est le 28 mars, sur la rénovation énergétique. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Si vous n'avez pas de questions, ah si.
Alors, quand ça reste en France, c'est pas compliqué. Quand c'est à l'étranger, hors Europe notamment, c'est compliqué puisqu'il y a toute une série de normes en fait sur l'import du matériel, notamment que ce soit les sols ou les sédiments dans lesquels il peut y avoir des pathogènes ou de la vie exotique, on va dire, par rapport à l'Europe. Donc le rapatriement, en fait on a des prestataires qui s'occupent du rapatriement, mais ensuite il faut soit les envoyer dans des laboratoires agréés pour recevoir ce genre d'échantillons qui peuvent être potentiellement avec des espèces invasives par exemple, soit les faire traiter au rayonnement gamma par exemple pour tuer toute la vie dans ces prélèvements, et ensuite on peut les transporter au laboratoire pour les étudier. Et donc oui, ça a aussi un coût, hein, c'est un coût qui est vraiment non négligeable.
Après, quand ça reste en France, les problématiques qu'on peut avoir, moi dans mon cas par exemple, c'est comme je m'intéresse à l'effet du gel sur les sols, je ne peux pas conserver mes sols congelés, parce que dans ce cas-là, je crée du gel sur mes sols qui ne sont pas censés être congelés. Donc ça met beaucoup de pression sur les analyses que je dois faire derrière, c'est-à-dire que dès que j'échantillonne, toutes les analyses qui vont être faites à la suite de l'échantillonnage doivent se réaliser dans la continuité. Donc c'est pas des problématiques qui sont certes très complexes d'un point de vue logistique, mais c'est quand même des contraintes qu'il faut prendre en compte.
Ouais. Par exemple, pour les carottes de sédiments, donc normalement ils doivent être maintenus au frigo pour pas se dessécher. Et donc tant qu'elles sont pas ouvertes, ça va, elles peuvent être au chaud, mais à partir du moment où elles sont ouvertes, elles doivent être stockées dans des conteneurs réfrigérés, par exemple. Voilà, donc c'est toute une série de contraintes, évidemment.
Bon, on a un petit peu dépassé le temps, donc il va falloir conclure. Et je précise, j'avais oublié, le prochain café scientifique a lieu demain à 20h et c'est sur la thématique des plastiques. Et c'est à la MJC à Chambéry. Donc si vous êtes intéressé et que vous êtes libre demain, vous êtes invité à participer. Si vous avez d'autres questions, je ne veux pas vous frustrer. Donc on a un petit pot à l'extérieur de l'amphi avec des boissons et des chips et vous pouvez continuer à échanger et à poser vos dernières questions. Eh bien, je vous remercie tous les deux d'avoir participé. Je vous remercie aussi d'être venus. Et puis, si vous êtes intéressés, ben, n'hésitez pas à suivre les activités, les actualités de la culture scientifique sur le site de l'université. Et vous avez tout dans l'agenda étudiant. Voilà, merci beaucoup.